Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 9, verset 9. Matthieu 9, 9.
Lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Amen.
Donc là, ce texte nous montre Matthieu assis, aujourd'hui ce qu'on peut appeler le bureau des impôts. Donc c'était le bureau des péages. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà pris l'autoroute, vous voyez les péages. Et là, c'était un péage beaucoup plus important, parce que ça gérait l'entrée et la sortie des marchandises et des humains, beaucoup de choses. Donc c'était un grand bureau des péages. Et Matthieu, c'était le travailleur dans ce bureau de péage. Jésus lui dit, suis-moi. Et il laisse tout, il le suit. C'est comme ça que Matthieu, c'est lui qui a écrit l'évangile de Matthieu. C'est comme ça qu'il se convertit. On lui dit, suis-moi. Par Jésus, il le suit. Ça fait des années, je me suis toujours posé la question, mais comment juste on te dit, suis-moi, il suit? Alors qu'il y a des gens, on leur parle du Seigneur 10 ans, 11 ans, 7 ans, ça ne bouge pas ou ça bouge faiblement. Et il y en a même qui sont dans le milieu des églises, mais qui ne sont pas convertis, qui écoutent la parole de Dieu jour et nuit. Matthieu, on lui dit, suis-moi, il suit. Et c'est là que depuis longtemps j'ai réalisé qu'il y a une voix qui parle au cœur, que l'homme ne voit pas. C'est la voix de Dieu. C'est la voix du Père. Nous ne sommes que des instruments. Ce que nous disons, c'est très bon, c'est très bien. Mais il y a le Père qui, par son esprit, fait un travail dans le cœur humain. C'est ce qui amène vraiment la conversion. C'est ce qui amène le déchirement, hein, le brisement, la rupture. Voilà le terme que je cherchais. C'est ce qui amène la rupture. L'homme change par le travail que le Père, par son esprit, fait dans son cœur. Après, Dieu nous envoie, nous, parler de lui pour que ça soit clair dans la conscience de l'homme. Mais lui-même a déjà fait le travail. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, 43-45, qui nous parle aussi de cela. Jean 6, 43-45.
Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, à partir du verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi.
Amen. Jésus le dit clairement. Parce que les gens polémiquaient sur Jésus. Jésus leur dit, de toute façon, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est l'enseignement que le Père a fait d'abord dans votre cœur. Quiconque n'a pas reçu l'enseignement du Père ne recevra pas mon enseignement. Ça veut dire que tout ce que nous disons de la part de Dieu, si les gens n'ont pas d'abord cédé au travail que Dieu a fait dans leur cœur avant notre travail à nous, il n'y aura pas de fruit. Jésus leur dit, il n'y a pas de mystère. Il y a un travail que le papa a déjà fait dans vos cœurs. Si quelqu'un n'a pas reçu cet enseignement-là, il ne viendra pas non plus à moi. Pour venir à moi, il faut d'abord que Dieu, le Père, t'ait travaillé, t'ait touché. Il le dit au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Dieu attire et il nous envoie clarifier les choses. Nous sommes des clarificateurs. En réalité, c'est Dieu qui travaille dans le cœur des humains. De sorte que le thème de ce matin, c'est le miracle de la conversion. La conversion est un miracle. La conversion n'est pas une suite logique. C'est un événement surnaturel produit par Dieu. Seul Dieu peut entrer dans le cœur d'un homme et renverser les choses et produire une nouvelle personne. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons tendance à croire que c'est une suite logique. C'est pourquoi on s'énerve. Quand on a fait ce qu'il fallait, on a dit ce qu'il fallait, on a expliqué ce qu'il fallait, mais la personne ne change pas, la personne ne se convertit pas. On finit par s'énerver. Mais on oublie que c'est l'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu, c'est un miracle. Un miracle n'a pas de logique, ne respecte pas la logique humaine. Un miracle ne respecte pas la logique naturelle. Vous savez, aujourd'hui, si on prend 10 personnes dans une salle, on pose la question suivante à chacun. On est prêt à donner de l'argent à vous tous, 10, soit 1000 euros, soit 15 000 euros. Vous choisissez quoi? Tout le monde va choisir 15 000 euros. Ça, c'est logique. Tout le monde choisit 15 000 euros. Mais si il arrivait qu'il y en ait un qui dise « Moi, je veux 1000 », est-ce que vous trouverez ça normal? Vous ne trouverez pas ça normal. Parce que ce n'est pas logique. Entre 1000 et 15 000, le choix est clair. C'est ça la logique. Mais la conversion n'obéit pas à la logique humaine. C'est un miracle. C'est quelque chose de surnaturel. Et le Seigneur le dit lui-même. Nul ne vient auprès de moi sans qu'il ne soit attiré par le Père. Il y a un travail que Dieu fait déjà dans la personne pendant un temps. C'est ce qui est écrit dans « Ils seront tous enseignés de Dieu » au verset 15 et au verset 45. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Jésus veut nous dire quoi? Quand les gens refusent l'évangile, c'est qu'ils ont déjà refusé Dieu. Il veut nous dire quoi? Ce que nous faisons, c'est important, mais c'est secondaire, c'est petit. Le grand travail de Dieu, qui le fait, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu a fait un travail chez quelqu'un, il attire chez un chrétien pour que le chrétien lui clarifie la situation, les choses. La personne est travaillée, elle ne se rend pas compte que Dieu la travaille. Dieu lui parle, elle ne s'en rend pas compte. Dieu fait un travail de brisement, d'humilité en lui pour l'amener à l'humilité. Parce qu'il est écrit quoi? Il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles ». Donc Dieu fait un travail pour rendre cette personne humble de sorte à ce qu'elle reçoive l'évangile clair. Et quand le Seigneur a fait son travail, il attire maintenant la personne vers nous afin que la personne écoute l'évangile clair et se convertisse réellement. Mais lui-même déjà a fait un travail. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit là. Il y a un travail que mon Père doit faire chez toi, s'il faut me croire. S'il ne fait pas ce travail-là, tu ne croiras pas en moi. C'est ça la réalité. La conversion est un miracle. Vous savez, quelles sont les conséquences de cette compréhension-là que la conversion est un miracle? Tu ne vas pas compter sur ton éloquence. Tu ne vas pas compter sur le fait que tu bouillonnes quand tu parles de Dieu. Non. Tu vas compter tout simplement sur la miséricorde de Dieu. Et autre conséquence, c'est que tu vas réellement considérer que ce que tu dis, que ce soit exceptionnel ou pas, le Saint-Esprit s'en sert pour faire le travail de Dieu. Dieu se sert de nous et nous ne devons pas être esclaves de la logique humaine. Vous savez, Richard Rembrandt, un jour, a fait un grand débat avec un juif. Lui-même était juif d'origine. Il a démontré par A plus B à ce juif-là qu'il avait tort de ne pas croire en Jésus. Il l'a démontré parce qu'il connaissait la religion juive, il connaissait aussi l'évangile, et il a démontré que le juif était dans l'erreur de ne pas croire en Jésus. Mais Richard Rembrandt, il dit quoi? Il dit quoi? Mais ça n'a pas amené ce juif-là à se convertir. Il a dit, d'ailleurs, il s'est braqué. Après ma démonstration, il s'est braqué. C'est pour nous dire quoi? La conversion est un miracle. Ce n'est pas notre démonstration qui va amener la conversion. Notre démonstration peut épater, peut même briser quelqu'un, même l'humilier. Mais est-ce que c'est ça le but? Non. Le but, c'est de présenter l'évangile. Notre démonstration peut être extraordinaire, mais ce n'est pas ça qui va amener la conversion. C'est le Saint-Esprit qui fait d'abord un travail et il nous apporte l'âme pour que nous nous fassions la dernière touche. Il a tout fait et nous, on vient ajouter la dernière touche par notre discours. Quand on comprend cela, on est confiant. On sait que Dieu agit. Un jour, lors d'un concert qu'on avait fait à Grand Couronne, dans les chants, on parlait de Dieu. Et on avait une entracte, une pause. Et pendant cette pause, on a discuté un peu avec les gens qui étaient venus, les grands athées. Il y a un qui est venu m'aborder pour me dire, mais malgré tout ce que vous avez chanté, moi je ne crois pas en Dieu. Et moi je lui ai dit, même si tu ne crois pas en Dieu, Dieu t'aime. Voilà. C'est venu comme ça de lui dire Dieu t'aime, ça ne change pas l'amour de Dieu pour toi. Notre conversation s'est arrêtée là. C'est ça, bien-aimé. La conséquence de tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est le Saint-Esprit qui gère la conversion d'une âme. Et soyons à son écoute pour que chaque étape soit accomplie jusqu'à la conversion de la personne. Mais lorsqu'on veut manipuler les gens, on veut forcer dans l'éloquence, forcer dans la démonstration pour obliger les gens à se convertir, ce n'est pas de Dieu. Nous devons être simples, dire ce que Dieu nous demande de dire. Un point surtout. Je me souviens d'Ali, Ali qui était parti à la Mecque, comme bon musulman, il arrive à la Mecque pour faire ses prières, mais qui c'est qui se révèle à lui? Jésus, le Fils de Dieu. Et Jésus, quand il se révèle à lui, il lui dit, Ali, tu dois quitter cet endroit. Ce n'est pas mon endroit. Ce n'est pas ici que tu dois être. Et Ali plie bagage, il retourne en Turquie, c'était un Turc. Il retourne en Turquie en chrétien parce que Jésus-Christ l'a converti, l'a sauvé. Et à son retour, les gens se disent, il vient de la Mecque, c'est la fête. Moi, j'ai vécu au Maroc et là-bas, donc, dans les pays musulmans, quand quelqu'un a fait le Hajj, il a fait le pèlerinage, quand il revient, c'est la fête. Les gens viennent à la fête et lui, il est assis. À un certain moment, le Saint-Esprit, vous avez vu le film, je crois, le Saint-Esprit lui dit, lève-toi et parle. Il se lève, il dit, mes chers amis, chers voisins, vous êtes venus me voir parce que je viens de la Mecque. Moi, là-bas, j'ai rencontré Jésus et aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Le discours s'arrête là, il s'assoit. Quand je vois de telles choses, je dis, Dieu, il sait ce qu'il fait. Pour nous, on va dire, mais c'est un discours trop simple, il n'y a rien du tout là. Mais ce n'est pas ton problème. Il faut être conscient de la miséricorde de Dieu. Quand un papa laisse son fils crucifié à la croix, ce n'est pas de la blague, bien-aimé. Aujourd'hui, même si on nous montrait un voleur crucifié, ça va nous choquer. Mais Dieu a laissé son fils crucifié à la croix. Ce n'est pas un jeu. Il veut vraiment sauver les humains. Ce n'est pas ta phrase, ton éloquence qui va sauver quelqu'un. C'est la puissance et l'amour de Dieu qui sauvent les gens. Ali s'est assis après avoir dit « Je suis devenu chrétien ». Il n'a pas fait de démonstration. C'est tout. Combien de gens n'évangélisent pas parce qu'ils cherchent qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors qu'il faut juste dire ce qui vient dans le cœur. Combien ne calculent-ils pas? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que ça va faire? Et dans la parole, Dieu dit, ne méditez pas ce que vous aurez à dire quand on va vous amener dans les tribunaux. Moi-même, je parlerai par vos bouches. Mais à chaque fois qu'on est face à des gens incroyants, on est comme face à un tribunal. Ne calculons pas. Laissons le Saint-Esprit parler en nous. Il s'est assis. Et les gens rigolaient. D'ailleurs, après son discours, les gens rigolaient. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Lui, il part à la Mecque, c'est pour devenir un chrétien. Il rigole. Et la fête est terminée. Ils sont partis. Ali n'a pas fait la démonstration pour dire, j'ai vu Jésus en vision, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Il a dit, Jésus, j'ai rencontré le Seigneur, il a changé ma vie. Je suis devenu chrétien. Et quand tout le monde est parti, Ali commence à pleurer. Sa femme dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais moi je suis devenu chrétien et toi tu es encore musulmane. Comment on va vivre? Elle dit, mais ne pleure pas parce que moi aussi je peux devenir chrétienne. C'est là qu'elle se convertit. Qui peut expliquer de telles choses? Qui peut expliquer ça? Personne. C'est des mystères de Dieu. C'est pourquoi la conversion est un miracle. C'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus rien faire, on attend seulement? Pas du tout. Ce sont des miracles de Dieu, les conversions, mais qui passent par des canaux. Dieu cherche des canaux, un canal par lequel passer pour apporter ça à quelqu'un. Et Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'utiliser les humains. Mais ce n'est pas parce que les humains sont importants. C'est parce qu'il aime les humains, il veut partager le travail avec eux. Mais l'erreur, c'est de croire que notre travail est le plus important. Non, c'est le travail de l'Esprit-Saint. Et Jésus le dit carrément dans Jean 6, 43, 45, « Personne ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. » Nous allons lire aussi Jean 3, 1 à 8.
Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La conversion est un miracle, ce n'est pas une suite logique. Ce n'est pas un concept intellectuel qui demande une démonstration pour attirer l'adhésion. Non, non, c'est un miracle. Nicodème est venu voir Jésus. Dans la tradition juive, c'est une tradition de polémiques et de discussions et des explications profondes. Les juifs aiment les explications profondes. Ils ont tout un livre qu'on appelle le Talmud qui est là, qui donne les explications des rabbins sur les passages bibliques. Ils aiment ça. Et quand il vient voir Jésus, il s'attend à ce que Jésus lui donne des explications profondes pour expliquer le salut. Jésus lui dit, non, Nicodème, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de doctorat pour ça. C'est la nouvelle naissance. Nicodème dit, mais c'est quoi la nouvelle naissance? Jésus lui dit, c'est un miracle de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre ça. Le vent souffle. Tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais même pas où il va, mais tu en entends le bruit. Ce que l'homme peut comprendre, c'est juste le bruit. Ce que l'homme peut saisir, c'est juste le bruit du vent. Mais l'origine et la fin, on ne sait pas. Vous savez, bien aimé, un vrai converti, on ne connaît pas sa fin. Un jour, il peut se réveiller et dire, Dieu m'envoie en Chine prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes étonnés. Un vrai converti, on ne connaît pas sa fin. Ma famille pensait que moi, j'allais faire de longues études scientifiques. Ils sont tous étonnés que j'ai tout donné pour servir l'Éternel. Les diplômes dans les tiroirs. On ne connaît pas la fin d'un vrai converti. Parce que c'est Dieu qui a pris la personne, il a saisi la personne. Vous pensez quand Jésus dit dans Jean 10 que mes brebis sont dans ma main, personne ne peut les ravir de sa main, de ma main. Ça veut dire qu'un converti, ce n'est pas, c'est quelque chose, c'est entre les mains de Dieu. Un jour, j'ai reçu un frère dans le bureau qui m'expliquait ses doutes et ses difficultés. Je lui disais, ce qui est rigolo, c'est que malgré tes doutes et tes difficultés, tu es dans la main du Seigneur. C'est ça qui est beau. Tu doutes, tu te compliques, mais tu es quand même dans la main du Seigneur. Parce que tu es un vrai enfant de Dieu. Ce ne sont pas tes doutes qui vont changer cela. C'est extraordinaire. Comme un frère avait raconté, quand tu es sur un pont solide, même si tu as peur, est-ce que tu tombes? Non, le pont est solide. Dans l'avion, parfois, on a peur, non? Mais est-ce que l'avion tombe? Non. Ça, c'est la conversion. Tu es dans la main du Seigneur. Le diable ne peut plus. Puisque tu es dedans. C'est un miracle de Dieu. Ce n'est pas une suite logique. Parce que si c'était logique, quand tu as des doutes, tu devrais quitter la barque. Mais tu es toujours dedans. Donc c'est un don de Dieu, c'est une grâce divine, c'est le miracle de Dieu, ce n'est pas une suite logique. Parce qu'on a dit ceci, il a vécu cela, maintenant il peut se convertir. Non, on ne comprend pas. Le vent souffle, on ne sait pas d'où ça vient. L'homme ne comprend pas la conversion d'un autre. Même sa propre conversion ne comprend pas. Parce qu'il y a un travail que Dieu a fait, que lui ne sait pas. Un travail minutieux, sérieux. Et c'est ça qui explique, c'est ça qui justifie aussi le jugement dernier. Ça veut dire que les gens qui vont refuser le Seigneur, ils ont refusé ce travail-là pendant longtemps. Ce n'est pas ils ont rejeté parce que nous, on a parlé. Nous, on est le côté officiel. On vient lui parler de Jésus, il refuse. Ça, c'est le côté officiel. Mais il y a un côté caché, un travail que Dieu a fait dans le cœur de la personne. Pendant longtemps, la personne refuse. De sorte que même quand nous, on vient avec le travail officiel, il rejette. C'est ce que Jésus dit dans Jean 6, 43, 45. Nous avons lu tous ensemble. Il le dit, Nul ne vient à moi sans qu'il ne soit attiré par le Père. Au 45, il dit, il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. Donc, avant qu'il y ait le chrétien officiel qui t'apporte la parole, Dieu t'a déjà enseigné. Il y a eu un travail. Ça peut se passer par des gens qui t'ont parlé. Ça peut se passer dans des visions. Ça peut se passer par des circonstances. Ça peut te passer par des réflexions que tu as dans ta tête. Tu penses que c'est toi, mais c'est l'esprit qui est en train de réfléchir en toi. Et de sorte qu'un jour, quand on vient te déposer la parole officielle, tu obéis, tu te soumets. Alors, les gens qui iront en enfer vont vraiment le mériter. Ça veut dire que pendant des années, ils auraient refusé le travail minutieux de Dieu. Il y a des chrétiens qui se disent, mais je ne comprends pas, on demande aux musulmans de se convertir d'un coup comme ça, et pendant des années, ils ont connu une autre religion. Mais bien aimé, pendant des années, Dieu leur a parlé. Donc quand Dieu t'envoie leur parler, ça ne veut pas dire que c'est toi le premier. Tu ne sais pas. Combien de fois Dieu lui a montré que l'islam était mauvais et faux. Dieu a fait son travail. Maintenant, les humains résistent par rapport à la famille. Ils résistent par rapport à beaucoup de raisons, par rapport à des intérêts. Mais Dieu a fait déjà son travail. Et quand nous, on vient présenter l'évangile, ça dépend de la réaction de ces personnes vis-à-vis du travail que Dieu a fait dans leur vie. Si leur réaction a été bonne vis-à-vis du travail de Dieu, ils auront aussi une bonne réaction vis-à-vis de ce qu'on leur dit. Donc, comme Nicodème vient de dire, et Jésus vient de dire à Nicodème, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais tu en entends le bruit, tout simplement. Dieu fait son travail. Pour ceux qui voudront, nous leur donnerons l'histoire de Pavel, à la fin, vous irez voir la sœur Mylène pour ceux qui veulent lire son histoire. Pavel faisait partie d'un groupe de brigands qui étaient prêts à tuer les gens pour leur voler de l'argent la nuit en Russie. Ils vivaient dans les forêts profondes. Un jour, ils ont attrapé deux chrétiens. Les deux chrétiens ont supplié, ne nous tuez pas. Mais ils les ont tués quand même. Mais dans les vêtements des chrétiens, il n'y avait presque rien. Il y avait peut-être dans les 5 euros peut-être de l'époque. Mais il y avait un Nouveau Testament. Ils ont quand même pris tout ça. Ils avaient voulu jeter le Nouveau Testament, ils ne l'ont pas fait. Ils ont amené ça dans leur repère de brigands. Et il a commencé à lire comme ça, par distraction, par curiosité. Et ça lui a rappelé sa mère qui lisait le Nouveau Testament. Il a continué à lire jusqu'au moment où il arrive à la croix où Jésus pardonne aux pécheurs. Il dit, quoi ? Même un brigand peut être sauvé alors ? Et son comportement a commencé à changer. Il dormait pratiquement pas la nuit et il marchait tout seul dans le camp des brigands. Les gens se disaient, mais tiens, il a changé. À un moment donné, ils se sont risqués à lui dire, mais pourquoi tu es devenu comme ça, solitaire? Il leur dit, mais ce que j'ai lu dans le livre m'a bouleversé. Alors lis-nous aussi pour qu'on sache c'est quoi. Les brigands, chaque soir, ont commencé à lire la Bible. Et finalement, 7 ont été convaincus d'arrêter avec le brigandage et d'aller se livrer aux autorités. Bien aimé, on n'est pas en train de dire que c'est des gens qui ont volé 100 euros, 200 euros, non, qui ont tué. Ils ont dit maintenant que nous avons rencontré le Seigneur. Et il nous a pardonné. Nous allons aller nous livrer aux autorités. Qui pouvait comprendre que un chrétien tué avec son Nouveau Testament pouvait produire tout ça? Nous, on aime les chrétiens vivants qui font des miracles, qui remplissent les stades. Mais là, c'est un chrétien tué, mort. Et il avait bien écrit dans son Nouveau Testament une phrase pour se rappeler le jour où il s'était converti. C'est un chrétien mort qui produit tout ce qu'on est en train de dire là. Et les sept, ils arrivent au bureau du procureur pour se livrer. Tout le monde a peur parce qu'ils arrivent avec leurs armes. Et ils viennent, ils déposent tous. Ils disent, on vient se livrer. C'est nous les grands brigands qui avons... Mais le procureur dit, mais je ne comprends pas. Mettez-les en prison, on va réfléchir sur ce cas-là après. Où a-t-on vu un brigand venir se livrer? Le procureur rentre à la maison ce soir-là. Il raconte à la femme, ma femme, je ne comprends pas. La femme dit, moi aussi, je ne comprends pas. Le voleur à la croix, lui, quand il ne pouvait pas fuir. Il était crucifié. Quand il reconnaît ses torts, il est crucifié. Mais ces gens-là, eux, ils pouvaient reconnaître leurs torts et mener une autre vie comme ça, sans dire à la police. Mais bien aimé, la vie du ciel, c'est pourquoi je vous dis que la conversion est un miracle. Parce que ce n'est pas logique que quelqu'un renonce à sa liberté. Ce n'est pas logique que quelqu'un renonce à commencer une vie comme tout le monde, avec une femme, avec des enfants. Ce n'est pas logique. Et ils pouvaient faire ça parce qu'ils n'avaient pas été attrapés par la police. Ils pouvaient faire ça. C'est ce que la femme du procureur ne comprend pas. Elle dit, mais d'accord, ils ont compris que ce n'était pas bon. Mais pourquoi venir se rendre? Mais ils venaient se rendre parce que la Bible demande à ce qu'on se soumette aux autorités. On a fait du mal, on vient se rendre. Alors, ça fait pagaille dans la ville. Le procureur a fait quoi? Il a démissionné. Il est devenu leur avocat. La femme dit, mais tu es fou, tu démissionnes. Il dit, je démissionne. Moi aussi, je dois trouver le Jésus que ces gens-là ont trouvé. Il commence à lire le Nouveau Testament. Lui aussi, il trouve Jésus. Sa femme aussi trouve Jésus. Il devient l'avocat des brigands. On les emprisonne. Les prisons changent. Tout le monde devient chrétien dans la prison. Tout ça, c'est le chrétien tué avec son Nouveau Testament. La conversion est un miracle. C'est l'œuvre de Dieu. Ne cherchons pas à la contrôler. Ne cherchons pas à la planifier. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Un point, c'est tout. C'est pourquoi parfois, moi, je dis aux bien-aimés qui sont là à harceler certains d'entre nous. Il y en a, ça fait des années, on leur dit comme ça, que s'habiller trop serré, ce n'est pas bon. Mais moi, je dis, mais si quelqu'un n'est pas converti, tu vas lui dire de s'habiller correctement, ça ne changera rien. La personne n'est pas convertie. On va le dire dans une logique de discipline pendant un temps, parce qu'on est des humains, on ne sait pas qui est converti ou qui n'est pas converti. On va le dire. Mais dans un souci aussi de connaissance, parfois les gens ne savent pas non plus. On dit, mais non, mais ce que tu fais n'est pas bon. Mais quand on le dit pendant des années, comprenons une fois pour toutes que la personne n'est pas convertie. Et prions pour sa conversion, au lieu tout le temps de dire aux gens, mais ce que tu as fait là n'est pas bon. Ce que tu l'as fait là, non. À un moment donné, on comprend que ça fait des années qu'on dit une chose. Si ça ne change pas, il y a un problème. Parce que la vraie conversion est un miracle. Ça ne vient pas de nos paroles répétées à tour de bras. Non, ça vient de la puissance divine. Et quand quelqu'un se convertit, l'apôtre Paul dit, il devient une nouvelle créature. C'est ce que Jésus dit dans Jean 3, là. Il dit, c'est le vent de Dieu qui souffle, qui commence à conduire la personne. La personne n'est plus la même. On ne peut pas être converti et commencer comme on entend. Excusez-moi, je vais dire les choses. Le rap chrétien, le rock chrétien, non. Vous savez, quand tu es converti, tu aspires à prendre les choses du ciel. Tu es fier de la gloire de Dieu. Tu ne vas pas tricher la musique du monde. Tu produiras la musique inspirée par Dieu. Ça, c'est la conversion. On passe notre temps polémique avec des gens. Mais oui, ce que tu fais, mes bien-aimés. Il y a des conversions. Il y a des gens qui ont été touchés. Mais qui ne sont pas encore convertis. Ou si on veut être gentil, dire leur conversion n'est pas aboutie. Et on va passer notre temps dans les polémiques. Alors qu'il faut plutôt qu'on prie que le Saint-Esprit achève le travail dans leur vie. À dire à quelqu'un, « Ah oui, mais on ne te voit pas à la prière. » Non, bien-aimé, prions pour que le Saint-Esprit touche les cœurs des gens. Qui a obligé Pavel et les autres à aller se rendre? C'est le Saint-Esprit, c'est la conversion. Vous imaginez, c'était tous des brigands. Ils étaient tous dans la forêt, dans la taïga. Ils n'avaient pas de docteur pour les enseigner. Ils ont lu la parole. Le Saint-Esprit les a convaincus que ce n'était pas ça. Il fallait se rendre aux autorités. Quand quelqu'un est pingre, radin, avare, il ne suffit pas de lui dire tout le temps. Il faut plutôt prier pour qu'il se convertisse. Parce qu'on voit dans Luc 19, 1 à 10, quand Zachée s'est converti, il était hyper riche. Quand il se convertit, il est écrit qu'il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. Vous voyez que quand on voit que quelqu'un est pingre et radin, disons-nous qu'il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire dans sa vie. On ne va pas répéter tout le temps, mais toi tu ne donnes pas, tu économises. Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore il y a un travail de délivrance qui doit se faire dans la vie de cette personne. Comme on a lu, le vent souffle. Oui, le vent l'a déjà pris, mais le vent doit l'amener à un certain stade. Amen. Ça ne veut pas dire forcément que les gens ne sont pas convertis, mais le vent maintenant doit les amener à un certain stade. Donc continuons à prier et à travailler, à exposer la parole dans l'humilité pour que le vent les amène à ce stade-là. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est la puissance de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens 2, 1 à 10.
Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Amen.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Amen. Dieu nous a révélés par l'Esprit. L'Esprit Saint sonde les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit Saint sait comment prendre ce qui est de Dieu pour donner à l'homme, pour que l'homme s'approche de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, quand je suis venu parmi vous, Corinthiens, je ne suis pas venu avec, il dit quoi? Car je n'ai pas, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu vous écraser avec une supériorité de langage ou de sagesse, de démonstrations compliquées. Non. Mais bien aimé, mais les humains aiment ça. Ils aiment les démonstrations compliquées, les constructions de sagesse humaine. Ils aiment, ils applaudissent. On peut remplir des stades avec ça. Mais est-ce que les gens sont convertis? Non. Les humains aiment quoi? Aiment qu'on impressionne avec des miracles, même s'ils sont faux. Du moment qu'on en parle, eux, ils aiment ça. Même si plus ou moins, ils n'ont pas de preuves des miracles dont on parle. Je connais beaucoup de prédicateurs, quand ils parlent, ils racontent les miracles qu'ils ont fait autrefois. Mais devant, pendant qu'ils racontent, ils n'en font aucun. Mais juste en racontant ce qu'ils ont fait, hier, les gens croient, alors que pendant qu'ils parlent, ils ne font pas de miracles. Et les gens aiment ça. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Quand on lit les évangiles, que ce soit dans Jean 2, que ce soit dans Jean 6, on voit que Jésus est méfiant vis-à-vis du grand nombre qui le suit. Dans Jean 2, il dit, mais il le suivait à cause des miracles, mais il connaissait leur cœur. Dans Jean 6, il dit, mais vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains, vous avez bien mangé. Donc Jésus se méfiait du nombre qui suivait comme ça en général. Ce nombre-là n'était pas fait composé de gens convertis. C'était des gens impressionnés, touchés. Ils avaient une certaine sympathie, mais ils n'étaient pas convertis. Ce que Dieu cherche, c'est la conversion, que tu deviennes une nouvelle personne, une personne entre la main de Dieu, c'est Dieu qui t'amène. Tu n'es plus esclave ni de l'argent, ni des humains, ni de la mode de ce monde. Tu es esclave de Dieu. C'est ça que Dieu cherche. Et ça, c'est un miracle que lui-même peut opérer. Lui seul peut opérer. Beaucoup de chrétiens usent de manipulation. Ils se comportent juste bien devant le païen pour que ça touche le païen. Non, on doit avoir un comportement bien à tout moment pour qu'on soit un canal par lequel Dieu peut passer pour toucher les gens. On ne doit pas attendre qu'on soit en face du païen pour maintenant afficher le bon comportement. Non, à la maison, il y a des gens qui se comportent bien au boulot, mais à la maison, ils se comportent mal. Il y a des gens qui se comportent bien à la maison, mais à l'école, ils se comportent mal. Ça, ce n'est pas de la conversion. La conversion, c'est se comporter bien partout, de sorte que ce n'est pas ton comportement qui convertit les gens, mais c'est que tu deviens canal, puisque tu es dans le fruit de l'esprit, tu deviens canal dont Dieu peut se servir, soit par la parole, soit par le comportement, soit par la prière, pour toucher les autres. C'est le côté canal qui est le plus important. Parce que j'en arrive à là. Quelle est notre part? Notre part, c'est ça. C'est être un bon canal. C'est ça notre part. Un bon canal. Nous, quand on lit Éphésiens 6, au verset 19, ce n'était pas prévu, mais lisons-le. Comprenons que Paul avait compris ce que nous sommes en train de partager là ce matin. Ils avaient compris que c'est le côté canal qui est important. Éphésiens 6, 19.
Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, verset 19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile.
Amen. Un type comme Paul, qui connaissait la parole comme nous le savons, mais il demande que Dieu l'aide, qu'on prie pour lui par les frères et les sœurs. Bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir combien moi je tremble avant de passer ici. Parce que des messages comme ça, je dis moi-même à Dieu, je dis, mais tu es conscient que c'est un message qui n'est pas de mon niveau. Toi-même, tu dois m'aider à parler là. Mais il y a des gens qui vont sortir de là pour dire que le pasteur est que ceci, cela. Non. Paul tremble, il dit, Seigneur, il demande aux frères, priez pour moi quand j'ouvre la bouche. Parce qu'il savait que le danger que nous courons, c'est de chercher à convaincre les gens par notre sagesse, intelligence, au lieu de laisser Dieu nous utiliser. Donc il priait pour que Dieu l'utilise, plutôt que lui, il se sert de Dieu. Non, que Dieu l'utilise, lui. Afin que les gens... Parce qu'il savait que si c'est Dieu qui l'utilise, il y aura conversion. Mais si c'est lui qui parle, les gens peuvent être touchés, sympathiser, sans se convertir. Parce que la puissance qui convertit, elle vient seulement de Dieu. Elle ne peut pas venir de l'homme. C'est un miracle. C'est un miracle, la conversion. C'est la vérité. Quelle est notre part? Si tu es un converti aujourd'hui, ta part, c'est de reconnaître ton péché, reconnaître ton échec. Reconnais ton échec. Oui, peut-être tu as réussi à l'école. Oui, peut-être tu es en bonne santé, tu es jeune. Mais tu sais bien que tu n'es pas bien. Parce que le poids du péché te dérange quand même. Tu as de l'intelligence pour savoir qu'un jour on mourra. Et ça énerve de penser qu'un jour on mourra. Nous tous, on n'a pas voulu avoir de... Moi, j'ai pas voulu avoir de barbe. Je pensais que je resterais sans barbe quand j'avais 12 ans. Mais ça vient tout seul. On ne pensait pas avoir des cheveux blancs. Mais ça vient tout seul. C'est ça notre échec. On ne pensait pas voir la calvitie. Mais ça vient tout seul. Voilà notre échec. Notre échec, c'est ce qui s'est passé hier avec M. Usain Bolt. K.O. Il sort de la compétition avec la honte après 10 ans de règne. Ça, c'est l'homme. Un jour, il échoue. Et la mort est là pour lui montrer ça. Même quand on a 14 ans, on y pense. On sait qu'un jour ça arrivera. On n'est pas bien. Ta part, il y a des gens qui attendent une construction logique pour se convertir. Je veux être touché comme un tel a été touché. Ils attendent une construction logique. Non, 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 non. La conversion, c'est comme le voleur à la croix. Tu reconnais qu'il y a un problème. Qu'il y a le mal en toi et tu reconnais que tu es dépassé par ça. Et tu dis, Seigneur, sauve-moi. C'est ça la conversion. Sauve-moi. Libère-moi de moi-même. Je veux t'appartenir. C'est ça ta part. Reconnaître ta faiblesse. Reconnaître ton échec. Reconnaître ton péché. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué en réalité? C'est l'orgueil qui fait que tu te sens indépendant de Dieu. Tu sens que tu peux faire ce que tu veux, puisque tu en as la force, puisque tu as les moyens. C'est ça le vrai problème, l'indépendance vis-à-vis de Dieu, l'orgueil. On refuse de capituler. Je fais ma vie, mais ce n'est pas ta vie parce que ce n'est pas toi qui l'as produite. C'est Dieu qui te l'a donnée. C'est ça le vrai problème. La volonté d'être Dieu et de prendre sa place. Mais Dieu a fait un travail en toi pour t'amener à comprendre que tu vas dans la perte, que tu n'es pas fort. Mais après, on oublie. Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur qui se noyait un jour. Pendant qu'il se noyait, il a dit, Dieu, si tu me sauves, je te servirai. Mais quand il a été sauvé, il a oublié. Il a retrouvé sa vie d'avant. C'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. La force qu'on a nous donne l'impression qu'on peut se gérer. Mais ce n'est qu'une impression. Parce que des gens comme Mohamed Ali ne mourraient, n'auraient pas le Parkinson à 42 ans si vraiment la force pouvait te gérer. Ce n'est qu'une impression. Tu te sens fort. Il y a un écrivain qui est mort dernièrement en France. Un écrivain célèbre. Il s'apprêtait à faire une grande manifestation. Mais il est mort d'un accident de voiture. Mais peut-être toi aussi tu es à la veille de ta mort. C'est rien du tout. C'est ça notre échec de comprendre. Ah, oh, je peux mourir même de crise cardiaque au sortir de ce culte. Combien de joueurs sont morts à 20 ans dans les crises cardiaques sur les terrains de football? Donc quand on reconnaît ça, soyons humbles pour dire non. Je ne peux pas me gérer. Seul Dieu peut me gérer. Les trahisons de la vie doivent nous aider à comprendre que vaut mieux être avec Dieu. Mais on s'entête toujours. Mais Dieu continue le travail. Il est bon, Dieu. Il est amour. Il va continuer le travail jusqu'à ce que notre cœur soit tendre pour accepter l'évangile totalement. Ta part, mon bien-aimé, toi qui as l'impression que le mal en nous est trop fort, tu te trompes. Jésus à la croix a triomphé du mal. Ta part, c'est de reconnaître ta propre faiblesse à toi, de dire, bon, c'est vrai, je vais nulle part. Mais tu te dis aussi, mais est-ce que je serai capable de vivre sans cigarette? Est-ce que je serai capable de vivre sans le succès? Est-ce que je serai capable de vivre sans les soldes? Est-ce que je serai capable de vivre sans ceci ou cela? Oui, tu seras capable. Comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne sait pas s'il est capable de vivre à l'extérieur, mais il vit quand même quand il sort. De la même manière, toi aussi, tu seras capable de vivre avec Dieu par sa puissance. Capitule seulement. Réponds à son appel. Ne résiste pas. Et ta part maintenant, ta deuxième part, c'est de croire en l'amour de Dieu. Dieu veut vraiment te sauver. Il ne veut pas te sauver parce que il a un intérêt personnel. Il va gagner quelque chose. Non, c'est son amour. L'amour est inexplicable. Il t'aime, c'est tout. Accepte cet amour. Pourquoi se compliquer la tâche? Et il t'a démontré son amour. C'est ce que le Seigneur dit à Nicodème dans le chapitre qu'on a lu dans Jean 3, verset 16. Il dit, c'est « Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le message que Dieu te donne. Maintenant, ta part à toi, chrétien, c'est quoi? C'est de faire confiance en la miséricorde de Dieu. Premièrement, en l'amour de Dieu, fais confiance. Vous savez, à force qu'on a reçu des râteaux, lorsqu'on a parlé de Dieu à quelqu'un, à force qu'on a rencontré l'opposition, parfois on finit par détester la personne. Mais ce n'est pas normal, parce que l'amour de Dieu, lui, il est constant. Steadfast, en anglais, c'est toujours stable, l'amour de Dieu. Dure, ça dure. C'est stable toujours. Et notre aigreur nous a écartés comme canal pour le salut des personnes pour qui nous prions. Parce que nous sommes aigris. Nous avons de l'amertume dans notre cœur par rapport à eux. Dieu continue à les aimer et Dieu travaillera pour les sauver. Mais il passera plus peut-être par nous. Notre part, c'est de faire confiance et d'être au courant de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu aime tout le monde, à tel point qu'il a donné son fils à la croix. Imaginez un papa qui laisse son fils crucifié, alors qu'en plus son fils est innocent. Ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour notre salut. Persévérons. Dieu est amour. Tant que quelqu'un est vivant, le salut est possible. Même si c'est un sorcier, même si c'est un tueur, le salut est possible. Faisons confiance à l'amour de Dieu plus qu'à la méchanceté des humains. Continuons l'œuvre de Dieu. Notre part, c'est quoi? Notre part, c'est de raconter ce que Dieu a fait pour nous. Louer le Seigneur. Faire confiance à la miséricorde de Dieu. Ensuite, louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'on appelle témoigner aussi. On témoigne. On dit ce que Dieu a fait pour nous. Humblement. Voilà ce que je suis devenu. C'est ce que notre frère Ali a dit. Il a dit, j'étais parti à la Mecque. C'est là que j'ai rencontré Jésus. Il m'a fait quitter l'islam. Maintenant, je suis chrétien. Et on laisse Dieu faire. On laisse le Saint-Esprit nous conduire dans la louange. Nous devons louer le Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Nous ne devons pas attendre les applaudissements pour louer le Seigneur. On doit être capable de louer le Seigneur tout seul, sans qu'il y ait un public. Évangéliser, c'est ça, louer le Seigneur. Quand on dit évangéliser, c'est ça, ça. C'est la même chose que louer le Seigneur. Dire aux gens qui est le Seigneur, mais c'est le louer. Jésus a dit à la femme qui lui a versé du parfum, on parlera d'elle partout où l'évangile sera proclamé. Pourquoi on parlera d'elle? Parce que ce qu'elle a fait là, c'était de l'évangélisation. Elle a versé un parfum qui coûte très cher, c'est-à-dire une goutte pouvait suffire à parfumer Jésus. Elle a versé tout le vase. Donc elle a fait comprendre à toute l'assistance là, vous avez en face de vous quelqu'un d'extraordinaire, d'important, c'est lui qu'il faut suivre. Parce qu'il est digne que tout ce parfum soit versé sur lui. Elle a évangélisé en glorifiant le Seigneur. Glorifier le Seigneur et évangéliser, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est la même chose en quelque sorte. Nous ne devons pas évangéliser pour le résultat. Même si nous nous attendons à ce que les gens se convertissent quand on évangélise. Mais ce n'est pas ça qui doit nous motiver le plus. Ce qui doit nous motiver, c'est que l'évangile est une belle nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bien-aimé, quand on arrive dans un village et qu'on trouve tout le monde malade d'une maladie incurable et qu'on sait que dans la ville d'où on vient, il y a un médecin qui guérit, on va rapidement annoncer à tout le monde, mais là-bas, il y a un médecin qui guérit. On ne sait pas qui partira, mais nous, on annonce. Parce que c'est le salut des gens. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais bien aimé, quand on annonce que toi, je vois souvent des frères, après le culte, quand ils ont loupé un match, ils regardent sur leur téléphone, ils annoncent aux autres. Hey! Mais quand tu annonces parfois à des gens qui étaient contre ton équipe. Pourquoi tu annonces alors? Parce que tu es fier de ce que ton équipe a fait. On annonce l'évangile parce qu'on sait que Jésus a triomphé des forces du mal. L'homme n'a plus besoin de rester esclave du mal. Il peut être délivré. On annonce, on a la victoire. C'est ça l'évangélisation, c'est ça la louange. On annonce, tu n'as plus besoin de rester égaré, Jésus est ton sauveur. Le sauveur international. C'est lui. On annonce que c'est une grande nouvelle. Notre champion a gagné. Il est ressuscité le troisième jour. Et face à une telle annonce, sans intérêt, sans logique de convaincre, personne ne peut répondre. Parce que ça vient
de l'Esprit qui glorifie le Seigneur. Quand Ali a parlé, personne n'a répondu. Ils ont rigolé, mais ils n'ont rien dit. Parce qu'il y a la puissance. Il a dit tout simplement, Jésus m'a transformé. Qui a dit là que, mais oui, mais c'est de la faute. Non, non, ils ont rigolé. Mais il a annoncé la victoire de Jésus dans son cœur. Donc, ça veut dire quoi? C'est que Jésus doit triompher chez toi. S'il triomphe chez toi, en toi-même, tu peux bien l'annoncer. Mais s'il n'a pas triomphé en toi, qu'est-ce que tu vas dire? Toi-même, tu sais que tu es encore égoïste. Donc, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, troisièmement, notre part, c'est de laisser Jésus transformer nos vies jusqu'à devenir comme lui. C'est de cela que c'est ainsi qu'on sera un canal pour toucher les autres. Même inconsciemment, sans le savoir, on va toucher les gens. Vous savez combien de fois il y a des gens qui sont venus nous voir ou bien nous raconter qu'ils ont été touchés par la prédication au point de se convertir, alors que la prédication ne parlait pas de conversion. Beaucoup de gens ont dit, mais j'avais un problème avec ma femme ou mon mari, mais la prédication m'a convaincu de changer de position. Alors qu'on n'a parlé pas, on n'a pas, nous les prédicateurs, on ne se souvient pas à quel moment on en a parlé. L'Esprit agit. C'est un miracle, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'Esprit qui convainc. Mais il a besoin de canaux. Il faut qu'on soit un canal propice, un canal libéré des déchets pour que l'eau coule, l'eau de Dieu coule. Il cherche des canaux, il ne cherche pas des gens extraordinaires. Tous nous sommes incapables. C'est lui qui agit, mais il faut que tu sois un canal pour qu'il agisse à travers toi. Alors il faut apprendre à être comme Jésus, le plus beau canal, le plus grand canal qui a apporté le salut à l'humanité. Plus on ressemble à Jésus, plus on devient un canal dont Dieu va se servir pour toucher les autres. C'est ce qu'il attend de nous. C'est ça notre part. C'est de présenter, quatrièmement, clairement présenter l'Évangile. Jean 3,16. Quand je dis clairement, il ne s'agit pas de longues démonstrations. Tu présentes l'Évangile. Jean 3,16. Bien-aimé, ton péché est en train de t'amener à la mort et puis en enfer. Jésus a triomphé de cela à la croix et il te donne son salut gratuitement. C'est ça l'Évangile. Il y a des gens qui ne parlent plus du péché, mais Jésus est venu pour libérer du péché. Il n'est pas venu pour nous donner du succès. Les gens qui vont te dire, Dieu te donnera du succès, ce n'est pas l'Évangile, ça. Dieu veut se servir de toi pour sauver beaucoup d'autres. Ce n'est pas ton succès, c'est son succès à lui. Puisque tu n'es rien du tout. C'est lui qui agit. Donc il faut qu'on se laisse transformer, devenir comme le Seigneur, et là on devient de plus en plus un canal pour toucher les autres.
Nous clôturons avec deux exemples qui confirment ce que nous sommes en train d'expliquer. Acte 8, 26-40, premièrement.
Lisons la parole de Dieu dans Acte chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouvera dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait.
Amen. Nous avons vu le processus. Cet homme est en train de lire les Écritures, mais il ne comprend pas trop. Et Philippe vient, envoyé par qui ? Par le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. » C'est le Saint-Esprit qui a tout arrangé. Et Philippe n'était qu'un instrument. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et il dit, « Va lui parler. » Et dans la discussion, l'eunuque comprend maintenant les choses clairement. Le rôle du chrétien, c'est de rendre Jean 3,16 clair aux autres. Ils comprennent, ah, c'est vrai, donc il y a Jésus, le Fils de Dieu, qui est descendu pour moi. D'accord. Et qui est-ce qui demande à être baptisé ? C'est l'eunuque lui-même. Il dit, mais dans ce cas, puisque c'est écrit qu'il faut que je me baptise, alors baptise-moi. Philippe dit alors, confesse Jésus-Christ. Il dit, oui, il est le Fils de Dieu, le Sauveur. Et c'est comme ça qu'il se convertit. Bien-aimé, ce n'est pas compliqué, la conversion. La conversion est un miracle. J'ai insisté pour dire que l'homme ne pouvait pas produire ça. C'est-à-dire, par un mécanisme contrôlé par lui-même. Cependant, c'est le seul miracle que l'homme peut expérimenter au moment où il le décide. C'est ça la différence. Aujourd'hui, moi, je peux dire, il y a beaucoup de miracles. On peut dire, ben, je prie pour que dans une semaine, je devienne le président de la République. Si ça se passe, c'est un miracle. Mais si on est 15 à prier pour ça, il faut bien qu'il y ait un seul président. Donc, il y aura des gens qui ne vont pas expérimenter ça. Mais il y a un miracle. Je peux dire, je prie pour que je sois guéri de telle maladie. C'est un miracle. Ça peut venir dans une semaine, dans 10 jours, ou au même moment. Mais il y a un miracle qu'on peut recevoir au même moment où on le demande, c'est la conversion. Même si ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu, mais celui-là, il le donne automatiquement alors que les autres, ça peut attendre, parce que Dieu ne peut pas attendre pour te sauver. Il va attendre quoi ? Que Satan te tue pour t'amener en enfer. Il ne va pas attendre. Le jour où tu demandes, il te donne tout de suite. Parce qu'il a envoyé son fils être crucifié à la croix pour toi. L'eunuque a dit c'est maintenant. Philippe dit c'est maintenant. Il y a des gens qui font 6 mois pour baptiser les gens. Ils leur font des cours pendant 6 mois. Et si pendant ces 6 mois, Jésus revient, les gens restent, ils vont en enfer. C'est ça que vous voulez? Quand quelqu'un a compris, on vient de lire clairement qu'il doit donner sa vie au Seigneur, on le baptise. Il va au ciel. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, il y a des cas où, mais c'est pas, oui, ça c'est pas notre problème. Il y a des cas où, après 6 mois, on va le voir dans une boîte de nuit. Ça, qui sait ça? Nous, ce qu'on sait, c'est que la personne vient de demander son salut. Il vient de demander sa conversion. C'est ce que nous, on sait. Bien sûr, si Dieu nous donne le discernement que c'est de l'aventure au moment où on parle, oui, d'accord. Mais si Dieu ne nous montre pas cela, nous acceptons, comme Philippe a accepté, l'aveu de cet homme pour l'amener au baptême. Miracle immédiat. Mais miracle quand même. Parce que ça ne vient pas de l'homme. Le deuxième texte, il est long. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10. On ne va pas le lire. C'est l'histoire de Corneille qui avait déjà une relation avec Dieu sans le savoir. Il faisait des aumônes. Il cherchait Dieu. Il y a un travail que Dieu avait fait dans sa vie, comme avec Philippe, le nu qu'on vient de voir là. Il y a un travail que Dieu faisait et il a demandé à Philippe d'aller clôturer, de mettre les choses au point clairement. La même chose avec le centenier romain. Dieu faisait un travail dans Corneille. Et Dieu donne une vision à Pierre pour aller le voir et Dieu donne une vision à Corneille pour demander à ce que Pierre vienne le voir. Voilà le travail que le Père fait. Quand Jésus dit, personne ne vient à moi sans que Dieu ne l'attire. Dieu convainc Corneille. Dieu convainc aussi la personne. Dieu est tout puissant. Un jour, des chrétiens au Pakistan, on tue les chrétiens. Mais des chrétiens cachés chez eux. Un jour, ils entendent la porte frapper. Pam, pam, pam. Ils ouvrent, peut-être dans la peur. Mais c'est toute une famille qui vient le voir. Mais vous venez faire quoi? Mais il y a notre petite fille qui a perdu sa maman il y a quelques mois. Mais elle a rêvé, sa maman lui dire qu'à cette adresse se trouve le salut. Ah, bien-aimé, comme j'aime ce genre de nouvelles. Donc la petite fille, je crois, de 5 ans, de 6 ans, elle fait le songe où sa maman lui dit à l'adresse telle avenue, numéro telle, c'est une maison verte. C'est là-bas que Dieu donne la vie éternelle. Les chrétiens qui étaient tout seuls en train de prier, ils entendent sa frappe, ils ouvrent. Ils disent, mais notre fille a fait telle vision et on nous a dit dans la vision que c'est ici qu'on donne la vie éternelle. Les chrétiens ont dit, c'est vrai, c'est ici. Parce que nous, nous croyons en Jésus. Ils ont expliqué et toute la famille s'est convertie. Il y a un chant qu'on chante. Il est merveilleux. J'ai oublié, c'est Ginette qui aime ça, mais elle est à la traduction. Elle ne peut pas nous rappeler ça. Je sais qu'il est merveilleux, quelque chose de ce genre-là. Ginette, tu peux nous aider un instant pour qu'on chante ça. Quand on voit Jésus a amené les gens au salut comme ça, on dit, ah, tout dit qu'il est merveilleux, c'est ça. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Terre. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout qu'il est merveilleux. Ah là, bon, écoutez, gloire à Dieu, Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il nous a sauvés un jour. J'étais très orgueilleux. Je croyais être le plus intelligent au monde. Mais un jour, j'ai échoué 2 années de suite à l'école. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai compris que je n'avais pas le droit. Je menais ma vie comme je voulais. Il a eu pitié de moi. Il ne m'a pas considéré comme son ennemi. J'étais son ennemi puisque je me croyais plus intelligent même que lui. Mais il m'a considéré comme un perdu qui était devenu fou. Est-ce qu'on peut, même combien de fois vous avez entendu des fous être sauvés de la prison? Des fous qui ont tué. Mais dès qu'il y a un papier qui dit que tu es fou, tu sors de la prison. Dieu nous prend comme des fous. On se croit grand, lui nous prend comme des fous. C'est pourquoi il nous aime quand même. Il nous prend pour des fous et il veut nous sauver. Il ne nous regarde pas comme un ennemi, mais comme un fou, quelqu'un qui a perdu la raison. Quelqu'un qui ne voit pas, qui court vers sa mort. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la terre sont... Tout dit qu'il est merveilleux. Encore. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer et la splendeur. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Tout dit qu'il est merveilleux. Encore. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Encore. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus. Oui, Jésus est merveilleux. La terre et la mer. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, car tu es merveilleux. Bien-aimés, nous voulons donner l'occasion encore aujourd'hui à ceux qui veulent se convertir à passer devant afin qu'on prie pour eux. Si le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui, Jésus t'a attiré, nous t'invitons à passer devant afin qu'on prie et que ta vie soit transformée une fois pour toutes. Il n'y a pas de honte à voir. Jésus nous appelle.